Le contexte actuel de notre société fait résonner ces textes d'une manière particulièrement aiguë. Certes, la chaire n'est pas une tribune politique et l'Évangile n'est pas un programme politique. À l'instar des réformateurs, je ne crois pas non plus qu'il existe une politique chrétienne. D'ailleurs, à chaque fois que les églises ont tenté de réaliser une politique chrétienne, ça a toujours plutôt mal fini. En revanche, s'il n'y a pas de politique chrétienne, il y a une manière pour nous, chrétiens, d'habiter la politique, de la penser, de nous y engager. Si l'Évangile n'est pas un programme politique, il interpelle en effet en profondeur notre réalité de vie commune, notre réalité politique. Car c'est toute notre réalité humaine qui est concernée par l'Évangile, et pas seulement un vague domaine spirituel ou privé. Et si donc la chaire n'est pas une tribune politique, il en va de ma responsabilité de prédicateur de montrer en quoi la parole de Dieu éclaire le contexte politique qui est le nôtre en ce moment, indépendamment de toute notion de parti, que ce soit droite, gauche ou extrême. Jésus a bien spécifié que son royaume n'était pas de ce monde, qu'il n'entendait pas régner sur nous à la manière d'un roi, d'un empereur, ou faut-il l'ajouter, d'un parlement ou d'un président. Il n'en demeure pas moins que si le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, c'est pourtant bien dans ce monde que nous sommes appelés à en faire l'expérience. Je vous rappelle au passage que si Christ a été condamné et exécuté suite à une décision politique des Romains, nous sommes incités à exercer une vigilance pour le moins critique à l'égard du pouvoir politique. Si nous sommes tenus de respecter les autorités, comme nous y exhorte Paul, bien sûr, mais aussi Pierre, quelques versets plus loin, après le texte que nous avons entendu, il n'en demeure pas moins qu'en dernière instance, nous n'avons de compte à rendre qu'à Dieu seul. C'est bien Dieu et Dieu seul qui doit régner sur notre âme et nos cœurs. C'est à lui que nous devons nous attacher, et c'est de sa seule parole que nous avons à tirer la vérité ultime de notre vie. Alors, sans plus attendre, venons-en aux faits. Le fait est que notre société a un problème avec la question de l'identité, mais en écoutant les textes, vous l'aurez compris, que cette question ne date pas d'hier. C'est évidemment autour de la figure de l'étranger que se cristallise souvent ce problème d'identité. Aujourd'hui, nous avons d'un côté une crise d'identité qui nous pousse à nous demander qu'est-ce qu'être français, avec cette question qui revient souvent dans le débat sur l'identité nationale, et de l'autre, une politique d'immigration qui, quels qu'en soient les justificatifs, discrédite, dévalorise, porte atteinte aux droits des étrangers, au point de rendre la figure de l'étranger suspecte par principe. L'immigré, l'étranger est systématiquement soupçonné de fragiliser notre identité, de mettre en danger la cohérence de notre nation, de ne pas respecter le pacte qui cimente notre société. Je n'entre pas ici dans des considérations générales ou abstraites. Je n'entre pas dans le débat interminable sur l'immigration légale ou illégale, sur la nécessité économique de faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Je ne parle pas ici du fait qu'en temps de crise, toute société humaine a besoin de désigner un bouc émissaire pour à la fois expliquer la crise et la résoudre en sacrifiant le bouc. J'en reste à un niveau autrement plus concret. Je parle des étrangers qui sont là. Peu importe d'où ils viennent, peu importe pourquoi ils sont venus, comment ils sont venus, le fait est qu'ils sont là, et que leur seule présence pose question à notre société. La figure de l'étranger m'oblige à me poser la question de ma propre identité. Lui qui vient d'ailleurs, un jour ou l'autre, me fait poser cette question, et moi, d'où je viens ? Il nous reste maintenant à entendre comment la parole de Dieu nous rejoint dans cette question et comment elle nous déplace dans la réponse qu'elle y apporte. Dans le texte du Lévitique, je retiens au moins deux points. Le premier, vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un natif d'entre vous. L'immigré qui vient d'ailleurs reçoit là la même dignité et le même statut que celui qui est né dans le pays. À ce titre, il ne peut pas faire l'objet de mépris, ni a fortiori être exploité, c'est-à-dire considéré comme un citoyen de seconde zone. Il y a une égalité de principe qui est posée entre l'immigré et le natif. Non seulement une égalité de droit, mais encore, et ça va beaucoup plus loin, une égalité de nature. L'étranger a beau être étranger, il est le même que moi. Il est mon frère en humanité, mon prochain. C'est ce que traduit la suite du verset « Tu l'aimeras comme toi-même ». Cet étranger, cet immigré, cet autre, ce différent, il est mon semblable. En d'autres termes, l'étranger, tout étranger qu'il soit, est fondamentalement un autre moi-même. Vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un natif d'entre vous. La seconde chose que nous dit ces versets du Lévitique, tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrés au pays d'Égypte. Dans la Bible, la relation entre l'étranger et le natif s'enracine dans une mémoire. Cette mémoire, c'est que les natifs ont été eux aussi, à un moment ou à un autre de leur histoire, des immigrés, des étrangers. Cela est vrai pour les Israélites qui avaient connu l'esclavage en Égypte et plus tard l'exil à Babylone. C'en est vrai pour les protestants français qui ont dû s'expatrier lors de la révocation de l'édit de Nantes et ont dû émigrer hors de France. C'en est vrai pour notre constitution de notre identité nationale, où les Français se revendiquent d'être descendants des Gaulois depuis la Révolution française. Avant, on faisait plutôt valoir les figures royales ou ecclésiales telles Clovis ou Charlemagne. En d'autres termes, à l'instant même où nous sommes invités à considérer l'étranger comme notre semblable, nous sommes aussi invités à nous considérer nous-mêmes comme des étrangers. Que nous soyons nés ici n'empêche pas qu'il demeure au fond de nous-mêmes une part d'étrangers. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrés au pays d'Égypte. La Bible nous montre que notre identité est donc le fruit d'une histoire mouvante, dynamique, complexe. Notre identité est fondamentalement un voyage, un exode, une traversée. Si nous nous réclamons du Dieu de la Bible, alors nous sommes héritiers de toute cette histoire du peuple d'Israël, ce qui veut dire que nous sommes tous des esclaves libérés, des immigrés accueillis, des gens d'ailleurs qui ont reçu de Dieu la grâce de devenir un peuple. Autrement dit, notre identité est le fruit d'un don qui nous échappe et non pas une construction. Notre Dieu est un Dieu à la fois étranger et intime, à la fois radicalement autre et mystérieusement semblable à nous. En Christ, il nous est donné de découvrir la présence même de Dieu dans une chair d'homme, en tout soin semblable à la nôtre. Ce qui signifie très concrètement que Dieu peut nous visiter à n'importe quel moment sous les traits de n'importe qui. Et rejeter l'étranger qui s'approche, c'est alors prendre le risque de rejeter le Christ. Mon humanité, je la reçois dans la rencontre de l'autre. Mon identité, elle se construit petit à petit au gré des paroles que je reçois, au gré des gestes dont je bénéficie, au gré des ouvertures que la présence de l'autre suscite dans mon histoire. Ainsi, en accueillant l'autre, c'est ma propre humanité que j'accueille. C'est ce que a voulu exprimer Pierre lorsqu'il appelle ses amis gens du voyage, étrangers sur cette terre. Comme étrangers et voyageurs sur cette terre, les chrétiens sont invités à vivre d'une identité ouverte, mobile et souple. Lorsque Pierre dit qu'il nous faut pour cela nous abstenir des désirs de la chair, il n'y a là aucune morale pudibonde, si l'on comprend bien ce que la Bible appelle la chair, c'est-à-dire la tendance naturelle de l'humain à se replier sur lui-même et à refuser d'exister dans la relation à Dieu et aux autres. Ce n'est pas une morale sexuelle, c'est pointer le désir de l'homme qui souvent est enfermé dans cette guerre à l'âme. Tout ce qui, au fond de nous, s'oppose à une vie ouverte à l'autre. Et c'est contre cette tendance-là, qui est présente en chacun de nous, que l'Évangile nous encourage à lutter. Car c'est en demeurant ouvert à l'autre que nous demeurons fidèles et ouverts à Dieu. D'où est-ce que je viens ? Qui suis-je ? La réponse à cette question ne figure pas sur une carte d'identité. L'Évangile nous aide à y répondre en nous disant « Voici ce qui compte en vérité. Je suis fils, fille de Dieu, mon Père. Je suis frère, sœur de Jésus-Christ. » Et à ce titre, n'importe quel autre humain, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, est mon prochain. La Bible nous invite à aimer l'autre, notre prochain, comme un étranger, en nous reconnaissant nous-mêmes étrangers. Étrangers et voyageurs sur la terre, telle est notre manière de vivre notre identité de chrétien. Telle est notre vocation. Telle doit être aussi notre vocation d'église, de communauté. Appartenir à l'église, c'est être en voyage avec tous les frères et les sœurs qui nous sont donnés, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Car appartenir à l'église, c'est appartenir à un peuple d'étrangers. Savez-vous quel mot Pierre utilise dans ces versets, dans ce que la Bible traduit par « étranger » Vous savez, Pierre a écrit en grec, et le mot que nous traduisons par « étranger », c'est le mot « paroikos ». En français, ce mot-là a donné « paroissien ». Amen.